Ramuncho, première partie, chapitre 13. On est au soir de Pâques. Après que se sont tues les cloches des villages, après qu'on finit de se mêler dans l'air tant de saintes vibrations venues d'Espagne et de France. Assis au bord de la Bidassoa, Raymond et Florentino guettent l'arrivée d'une barque. Un grand silence à présent, et les cloches dorment. Le crépuscule a tiédi, s'est prolongé beaucoup, et rien qu'en respirant, on sent l'été venir. Sitôt la nuit descendue, elle voit poindre de la côte d'Espagne la barque de contrebande, rapportant le phosphore très prohibé. Et sans qu'elle touche la rive, eux doivent aller chercher cette marchandise-là, en s'avançant à pied dans le lit de la rivière, avec de longs bâtons pointus à la main, pour se donner, s'ils étaient par hasard pris, des airs de gens qui pêchent innocemment des platuches. L'eau de la Bidassoa, cette nuit, un miroir immobile et clair, un peu plus lumineux que le ciel, où se reproduisent et se renversent toutes les constellations d'en haut, toute la montagne espagnole d'en face, découpée en silhouettes, si sombre dans l'atmosphère tranquille. L'été en a de plus en plus conscience de son approche, tant la nuit s'annonce limpide et douce, tant il y a ce soir de langueur tiède et épandue sur ce recoin du monde, où manœuvrent silencieusement les contrebandiers. Mais cet estuaire qui sépare les deux pays semble en ce moment à Ramuncho plus mélancolique que de coutume, plus fermé et plus muré devant lui par ces noires montagnes, au pied desquelles brillent à peine çà et là deux ou trois incertaines lumières. Et alors, il est repris par son désir de connaître ce qu'il y a au-delà, et au-delà encore. Oh, s'en aller ailleurs, échapper, au moins pour un temps, à l'oppression de ce pays, cependant si aimé. Avant la mort, échapper à l'oppression de cette existence, toujours pareille et sans issue. Essayer autre chose, sortir d'ici, voyager, savoir. Puis, tout en surveillant les petits lointains terrestres où la barque doit poindre, il lève les yeux, de temps à autre, vers ce qui se passe au-dessus, dans l'infini, regarde la lune nouvelle, dont le croissant mince, autant qu'une ligne, s'abaisse et va disparaître. Regarde les étoiles dont il a observé, comme tous les gens de son métier, pendant tant d'heures nocturnes, la marche lente et réglée. S'inquiète, au fond de lui-même, des proportions et des éloignements inconcevables de ces choses. Dans son village des César, le vieux prêtre, qui lui avait jadis appris son catéchisme, intéressé par sa jeune intelligence en éveil, lui a prêté des livres, a continué avec lui des causeries sur mille sujets, et à propos des astres, lui a donné la notion des mouvements et des immensités, a entrouvert devant ses yeux les grands abîmes des espaces et des durées. Alors dans son âme, les doutes innés, les effrois et les désespérances qui sommeillaient, tout ce que son père lui avait légué en sombre héritage, tout cela a pris forme noire et s'est dressé. Sous le grand ciel des nuits, sa foi de petit basque a commencé de faiblir. Son âme n'est plus assez simple pour admettre aveuglément les dogmes et les observances. Et, comme tout devient incohérence et désordre dans sa jeune tête, si étrangement préparée, dont personne n'a pris la direction, il ne sait pas qu'il est sage de se soumettre, avec confiance quand même, aux formules vénérables et consacrées, derrière lesquelles se cache peut-être tout ce que nous pouvons entrevoir des vérités inconnaissables. Donc, ces cloches de Pâques, qui l'année dernière encore l'avaient remplie d'un sentiment religieux et doux, cette fois ne lui ont semblé qu'une musique quelconque, plutôt mélancolique et presque vaine. Et à présent qu'elles viennent de se taire, il écoute, avec une tristesse indéfinie, venir de là-bas ce bruit puissant et sourd, presque incessant depuis les origines, que font les brisants de la mer de Biscaye, et qui, par les soirs paisibles, s'entend au loin jusque derrière les montagnes. Mais son rêve flottant change encore. C'est que maintenant, l'estuaire qui achève de s'enténébrer et où ne se voient plus les amas d'habitations humaines, lui semble peu à peu devenir différent, puis étrange tout à coup, comme si quelque mystère allait s'y accomplir. Il n'en perçoit plus que les grandes lignes abruptes, qui sont presque éternelles, et il s'étonne de penser confusément à des temps plus anciens, d'une antiquité imprécise et obscure. L'esprit des vieux sages, qui parfois sort de terre durant les nuits calmes, aux heures où dorment les êtres perturbateurs de nos jours. L'esprit des vieux âges, commence sans doute de planer dans l'air autour de lui. Il ne définit pas bien cela, car son sens d'artiste et de voyant, qu'aucune éducation n'a affiné, est demeuré rudimentaire. Mais il en a la notion et l'inquiétude. Dans sa tête, c'est encore toujours un chaos qui perpétuellement cherche à se démêler sans y parvenir jamais. Cependant, quand les deux cornes agrandies et rougies de la lune s'enfoncent lentement derrière la montagne toute noire, les aspects des choses prennent, pour un inappréciable instant, on ne sait quoi de farouche et de primitif. Alors une mourante impression des époques originelles, qui était restée on ne sait où dans l'espace, se précise pour lui d'une façon soudaine, et il en est troublé jusqu'au frisson. Voici même qu'il songe sans le vouloir à ces hommes des forêts qui vivaient ici, dans les temps incalculés et ténébreux, parce que tout à coup, d'un point éloigné de la rive, un long cri basque s'élève de l'obscurité. On faussait lugubre, un iridcina, la seule chose de son pays avec laquelle jamais il n'a pu se familiariser entièrement. Mais un grand bruit dissonant et moqueur se fait dans le lointain, des fracas de ferraille, des sifflets, un train de Paris à Madrid qui passe là-bas, derrière eux, dans le noir de la rive française. Et l'esprit des vieux temps replie ses ailes d'ombre et s'évanouit. Le silence a beau revenir, après le passage de cette chose bête et rapide, l'esprit qui a fui ne reparaîtra plus. Enfin, la barque que Raymond attendait avec Florentino se décide à poindre là-bas, à peine perceptible pour d'autres yeux que les leurs, petite orme grise qui laisse derrière elle des rides légères sur ce miroir couleur de ciel de nuit où les étoiles se reflètent renversées. C'est du reste l'heure bien choisie, l'heure où les douaniers veillent le plus mal, l'heure aussi où l'on voit le moins, quand les derniers reflets du soleil et ceux du croissant de lune viennent de s'éteindre et que les yeux des hommes ne sont pas encore habitués à l'obscurité. Alors, pour aller chercher ce phosphore prohibé, ils prennent leurs longs bâtons de pêche et entrent tous deux silencieusement dans l'eau.